Le carême, mais cette marche qui renvoie à la marche de 40 ans des Hébreux au désert, eh bien, donne soif. C'est le raccourci symbolique qui est utilisé pour intégrer dans cette troisième étape du carême ce très beau passage qui est beau dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Les Samaritains, les frères ennemis des Juifs, donc ils n'étaient pas juifs concrètement. D'où venaient-ils? Ça remonte loin, ça remonte au premier exil, au 8e siècle de notre ère, lorsque le roi d'Assyrie a conquis et déporté toutes les populations de la Galilée. Il les a déportées dans son immense empire et il les a remplacées par plusieurs nations. Et je vous le donne en mille, combien de nations c'était? Ben exactement le même nombre que les maris de la femme, 5 nations différentes. Et en s'installant, elles avaient leurs dieux, des cultes païens. Donc les 5 maris auxquels renvoie Jésus, ce sont des maris réels dans l'histoire de cette femme au niveau personnel, mais en même temps, elle est vraiment fille de Samarie d'une manière bien plus générale. Ces 5 maris sont aussi ces 5 idoles que les 5 nations avaient apportées avec elles en s'installant en Galilée à l'époque du premier exil. Et qui est donc ce 6e homme qui n'est même pas le mari de la femme? C'est évidemment le Dieu d'Israël. Parce que dans l'histoire de Samarie, eh bien, Dieu s'est fâché et a envoyé des bêtes sauvages qui décimaient la population récemment implantée. Alors ils ont envoyé des messagers au roi d'Assyrie pour lui demander de faire venir un prêtre originaire d'Israël pour y célébrer le culte afin d'apaiser la colère de ce dieu local. Vous voyez, c'était le raisonnement qu'il se faisait. C'est ainsi que, effectivement, un prêtre d'Israël a été renvoyé là pour célébrer un culte, pour faire vivre le culte de Yahvé dans cette région conquise par la Syrie. Voilà ce mystère familial et en même temps qui dépasse complètement. Comme quoi on est tributaire du passé, on est tributaire des générations qui nous ont précédés. Même si nous sommes libres, parce que la Samaritaine est libre d'entendre ou de tourner le dos à Jésus qui est là. Voilà cette femme, à la fois dans sa vie personnelle et dans sa mémoire collective, qui se tient devant Jésus. Le puits de Jacob était à l'extérieur de la ville, donc c'était un haut lieu de rencontre. En dehors de la place publique, c'est le puits qui est le deuxième haut lieu de rencontre dans l'Antiquité. Parce que tout le monde y converge, tout simplement. Donc on s'échange des nouvelles, on parle, ou on se fait la tête. Et ici, Jésus attend patiemment celle qui ne s'attend pas du tout à cette rencontre. Elle vient donc puiser l'eau, mais l'eau, le puits, qu'on traduit aussi par source. Les sources, dans l'Ancien Testament, c'est pas distingué des puits, peu importe que ce soit fabriqué par l'homme ou par la nature, ce qui compte, c'est que ça donne accès à l'eau. Donc, source, puits, c'est des symboles de sagesse. La sagesse, des Samaritains, donc ces Samaritains qui sont les lointains descendants de ceux dont je vous ai rappelé l'histoire, avaient conservé leur religion. Et leur religion, ils s'étaient débarrassés des idoles avec le temps, petit à petit, même si, évidemment, on peut deviner que chacun cultivait un petit peu son dieu, d'origine. Mais enfin, globalement, la religion qui dominait, c'était plus celle des 5 maris. La religion qui était demeurée chez les Samaritains, officiellement, c'était celle du 6e homme, à savoir de Yahvé lui-même. Les Samaritains avaient les 5 livres du Pentateuque comme fondement de leur religion, d'où la parenté avec les Juifs. Mais ils n'étaient pas Juifs. ils étaient païens d'origine. Donc pour un juif, ils étaient monstrueux. Ils avaient leur religion et ils n'avaient pas leur origine à eux. Ils avaient leur temple, comme nous le découvrons dans le dialogue, et ils se faisaient la guerre, donc, de multiples manières, avec les juifs. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Et Jésus, eh bien, choisit ce terrain plutôt mal préparé pour entamer un dialogue en esprit et en vérité avec la femme. Et c'est ça qui est beau. Il n'attire de loin jusqu'à lui en lui parlant de l'eau vive d'abord. Dans le désert, ce désert qui figure notre vie à nous, nos âmes, l'âme des hommes est assoiffée. Elle cherche, oui, la vérité et l'amour. Et ça, quel que soit l'endroit où, par accident, on a choisi de demeurer, cette soif, elle continue d'habiter nos cœurs. Alors évidemment, nous avons été nous abreuver à la source de l'eau vive elle-même, qu'est le Christ, mais tous les gens sur la terre, ce n'est pas leur cas. Jésus précise à la femme que vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, le Dieu donc, que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est beaucoup d'hommes essayent de s'approcher du divin, mais sans parvenir à rentrer en contact avec lui. Il ne suffit pas de savoir que Dieu existe, encore faut-il pouvoir partager le cœur de Dieu lui-même. C'est pourquoi notre religion nous adorons celui que nous connaissons, contrairement à bien d'autres. C'est une chance merveilleuse. Et Jésus nous rappelle combien nous devons être reconnaissants de cette chance-là. Nous sommes parmi ceux qui adorent en esprit, en vérité, en pleine connaissance de cause. Que dire d'autre ? Jésus, sa nourriture réellement, et c'est ce qu'il dit à la femme. Il dit à la femme que il faut adorer Dieu, il faut apprendre à adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est-à-dire, on est dans le domaine du spirituel. Ce n'est plus un lieu matériel, ce n'est plus un texte matériel non plus auquel on peut s'accrocher, qui nous mettrait en relation avec Dieu, avec la vérité, avec l'amour. Non, il faut autre chose de bien plus exigeant. Et ça, c'est un don de Dieu. Mais une fois reçu, ce don de Dieu a le pouvoir de se renouveler en nous et de nous renouveler en même temps. De son sein, dit Jésus, le croyant, du sein du croyant coulera une eau vive. Il deviendra une source, le croyant. Parce que par l'Esprit Saint, lui, c'est cette eau vive qui demeure en nous. Et voilà la chance merveilleuse. Nous sommes tous des sources, les uns pour les autres. Alors n'hésitons pas à donner à boire à nos contemporains, en communiquant avec eux sur Dieu, sur le mystère de la vie présente. Bien sûr, le monde nous réserve bien des frustrations dans ce domaine. Si on ne parle pas de trucs matériels, très grossiers, même si c'est tape à l'œil, les gens, ça ne les intéresse pas. Il faut essayer de vaincre ça. Il faut essayer de rappeler aux gens que le temps passe vite, qu'ils sont fragile, mortel. Là, le mot est difficile à entendre, mais il est là. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Ayons confiance en Dieu, abandonnons-nous à son bon vouloir. Notre nourriture doit être, comme Jésus, de faire la volonté de celui qui nous envoie moissonner là où les choses sont déjà préparées. Il nous suffit de reconnaître cette préparation ou bien la non-préparation éventuellement. Et alors là, comme dit l'Évangile, secouer la poussière de nos sandales et aller ailleurs dans une autre direction. En ce carême, demandons à Jésus cette eau vive, car tout croyant que nous sommes, nous avons soif, très soif, puisque nous ne sommes pas encore dans le beau royaume vers lequel nous nous dirigeons. et ce beau royaume des cieux qui un jour nous accueillera.